Toyota Cowansville est fier de rouler aux côtés du balado Le Guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site cowansvilletoyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cowansville, ici, chaque client est unique. Bonne écoute!
Le Guide de l'auto.
Hugues, cette semaine, on va parler d'une voiture qui m'a toujours un peu fasciné. C'est la Ford Thunderbird des années 80. Puis évidemment, je parle pas des premières années de 1980 parce que c'était une Thunderbird non mémorable.
On va y revenir.
Thunderbird à partir de 1983, le modèle qui était très aérodynamique, arrondi. Il y a eu plusieurs versions. Et avant de te lancer là-dedans, moi, je veux juste te dire que c'est une voiture qui m'a fasciné dès mon jeune âge parce que j'ai un oncle qui a possédé une 84 Turbo Coupe manuelle, qui est une voiture assez rare aujourd'hui, oui, qui est même une belle curiosité.
Oui, absolument.
Là. Alors, je te laisse aller, mais on commence peut-être par parler de cette nouvelle génération de Thunderbird qui n'avait rien à voir avec le modèle précédent. Là.
Ben non, en fait, quand il la présente... Peu de gens réalisent que cette voiture est une véritable révolution chez Ford. Et en fait, la raison, elle est simple, c'est parce que la voiture a été autant dessinée par des designers que en tunnel de soufflerie.
OK. Bon. Et les raisons qui ont poussé Ford à s'en aller dans cette direction-là, évidemment, la Thunderbird est un porte-étendard un peu pour la marque Ford, est un nom qui est sur le marché depuis 1955.
Exactement.
Alors, et on ne l'a jamais abandonné essentiellement. Alors, c'est important là, pour Ford.
Alors, en fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles Ford a décidé de casser un petit peu les choses. Déjà, il y a la crise du pétrole de 73 et de 79 qui a beaucoup chamboulé la donne, la montée en puissance des constructeurs japonais qui a chamboulé le marché. Ensuite, il y a l'apparition en 78 de normes de consommation qui sont plus restrictives. Donc, il va falloir faire quelque chose pour économiser de l'essence. Sinon...
Oui, et les Ford en 1978-19 n'étaient pas nécessairement des modèles économiques.
Non.
Des 400 puis des 460 pouces cubes, c'était moyen économique, ça.
Et la troisième raison, elle est toute simple, c'est que la huitième génération de T-Bird, qui est surnommée la Boxbird, elle avait bien démarré en 80, mais très vite, les ventes ont baissé. Elles sont passées de 156 000 en 80 à 45 000 en 82. Donc visiblement, un char carré, ça ne marchait plus. Et il fallait faire autre chose.
Bon, est-ce que Ford était capable d'amener cette voiture-là à un autre niveau? C'était la grande question, parce qu'évidemment, il y avait toute une question de changement d'image aussi du nom Thunderbird avec cette génération-là.
Alors en fait, au début... Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en place qui sont conservateurs. Et ces gens-là vont progressivement disparaître de la direction de Ford,
okay.
Ce qui va faire changer les choses. Lee Iacocca est renvoyé en juillet 78,
ouais.
Il est remplacé par Philip Caldwell. Henry Ford II, qui est quand même le patron de la boîte, il y a son nom sur le building, lui il n'aime que les calandres verticales. Lui, les chars aérodynamiques, il veut rien savoir. Et lui part en octobre 79. Donc là encore, il est remplacé par Philip Caldwell et Philip Caldwell est remplacé par Donald Peterson. Et c'est ces deux-là qui vont vraiment amener Ford dans les années 80, qui vont assurer la révolution.
Parce que bon, évidemment, il faut comprendre que c'est un 83 le véhicule, mais on commence à travailler sur cette voiture-là 4-5 ans plus
c'est
tôt.
C'est ça, là. Vers 78-79.
Ok.
Deuxième point, il y a des gens aussi qui changent au niveau du design. Le patron du design quitte en 1980, fin 80, suite à une crise cardiaque. C'est Gene Bordina et il sera remplacé par Donald Kopka. Ensuite, le designer qui va vraiment être celui qui va faire bouger les choses, c'est Jack Telnak. Et lui a travaillé en Europe dans les années 70 et il sait l'importance d'une bonne aérodynamique pour faire réaliser des économies. Et Telnak fera un excellent travail.
Les performances
absolument.
Aussi. Là.
Ouais. Et Telnak fera tellement bon travail que c'est lui qui va devenir directeur du design de Ford en 87. Et donc, à partir de là, Telnak et Kopka, les deux designers, vont se faire les champions de l'aérodynamique chez Ford. Et ils ont la mission d'éduquer le public, parce que le public n'est pas du tout habitué à ça, mais aussi les équipes dirigeantes de Ford, qui, eux, comprennent pas très bien. Donc là, pour ça, ils lancent les prototypes probe, 1, 2, 3, 4, 5, qui vont être produits de 79 à 85, qui vont être de plus en plus aérodynamiques et qui vont déjà permettre un petit peu de montrer c'est quoi une voiture aérodynamique. Et enfin, une petite anecdote, parmi les designers, il y a un type qui s'appelle William Boyer et il a travaillé déjà sur la première génération et la deuxième génération. Ensuite, il a travaillé un peu dans le monde et un de ses derniers designs, c'est la 9e génération de Tiber. Donc lui, c'est Monsieur Tiber, il a un véritable historique avec la voiture.
OK, alors présente-nous cette voiture-là qui, à cette époque-là, devait toujours rivaliser avec des modèles comme la Chevrolet Monte Carlo, la Dodge Mirada qui était en fin de carrière aussi. Mais la Monte Carlo, c'était un produit qui était établi. On l'avait redessiné en 81. Ça avait beaucoup de succès. Alors que là, on était champ gauche à côté design. Là.
Absolument. La voiture est introduite le 17 février 83. Elle est surnommée, logiquement, Aerobird. Toutes les T-Birds ont un surnom. Elle repose, comme la 8e génération, sur la plateforme Fox, qu'on retrouve principalement sur la Mustang.
Ouais.
Mais cette fois-ci, l'empattement est raccourci de 11 cm. Le poids est réduit de 45 kg, mais l'habitabilité reste à peu près la même. Le CX passe à 0,35, ça c'est un point important.
Ce qui est exceptionnel pour l'époque.
Pour l'époque, tout à fait. Parce qu'en comparaison, une Mustang 79, qui était déjà plus avancée à ce niveau-là que bien d'autres modèles Ford, faisait 0,44.
Ouais.
Donc on est déjà très très bien.
Ce qui est le même coefficient aérodynamique que le K-Car de Chrysler. j'ai toujours rigolé avec ça parce que s'il y a une voiture qui ne l'est pas aérodynamique, non. C'est bien ça.
Non. Et en fait, il y a une histoire intéressante, c'est que quand on regarde les tout premiers modèles, on voit que les phares ne sont pas intégrés.
Ouais. Alors, pour vous situer, c'était des seal beams.
C'est ça.
Ce qu'on achetait au Canadian Tire à 10$, là, les phares carrés intégrés à l'intérieur des blocs optiques, ce qui est évidemment pas génial pour l'aérodynamisme.
Non, pas du tout. Et en fait, c'est parce que c'est le gouvernement américain qui imposait ces phares-là.
Ouais.
Et Ford s'est battu pour justement aller chercher des phares affleurants. Ils ont réussi à faire changer la loi en 83, mais c'était déjà trop tard pour la T-Bird et le changement va se faire un petit peu plus loin.
Et je te pose une colle. Quelle était la première voiture du groupe Ford à avoir des feux affleurants sur le marché?
La Continental Mark VII.
T'es en quelle année là?
84.
OK. Alors, t'es en même année que moi, mais j'étais avec la Mercury XR4 Ti, mais qui était une voiture européenne.
C'est ça.
Qui était une Ford Sierra, voilà. En fait.
Et Ford américaine, en tout cas.
Ouais.
Donc, ensuite, sur la T-Bird de base, il y a deux versions, base et héritage. Le V8, le moteur de base est un V6 3.8 litres de 110 chevaux, pas terrible. Vient ensuite un V8 302 pouces cubes, 4,9 litres, 230 chevaux, avec une boîte à OD avec overdrive en option.
Intéressant que tu dises 4,9 litres, parce que même si Ford a passé son temps à dire que c'était son fameux 5 litres, la cylindrée, c'est 4949 cc.
Exactement.
Donc techniquement, c'est un 4,9 litres.
Ouais. C'est comme ça les chiffres. La voiture est bien accueillie par la presse globalement.
Ouais.
Elle a d'ailleurs failli gagner le titre de voiture de l'année 83, mais elle la perdra face à la Renault Alliance.
ce qui est assez fascinant. Remarque, la Renault Alliance méritait aussi son titre pour l'époque.
À l'époque, oui. Après, ça sera une autre histoire.
Bon, évidemment, il y aura eu aussi des versions un peu plus poussées. J'en ai parlé en début de chronique.
Voilà.
La version turbo qui débarque avec une mécanique partagée avec une Mustang aussi, qui était la Mustang SVO.
Alors, pas tout de suite. Elle arrive avec un 4 cylindres doté d'un turbocompresseur, injection électronique, 2,3 litres, 142 chevaux. Il n'y a pas encore la mécanique de la SVO, elle va arriver un petit peu plus tard.
Mais c'est le même bloc, là, essentiellement.
C'est le même bloc.
Oh, ouais,
c'est le même bloc. Boîte manuelle avec levier de vitesse sur la console centrale, direction plus directe, essieu arrière à glissement limité, déflecteur avant, phare anti-brouillard, roue en aluminium, c'est un vrai char de sport.
Puis tout ce qui s'appelle chrome sur la voiture est éliminé aussi.
Pas mal.
En fait, 6 mois après le début de production de la Turboco, parce que les premières unités avaient un look un peu curieux, puis on s'est rapidement ravisé, mais ça avait un look beaucoup plus moderne que n'importe quel autre coupé américain. Là.
Absolument. Et en fait, la voiture séduit beaucoup les acheteurs.
Ouais.
Et la nouvelle T-Bird explose ses chiffres de vente par rapport à 82. On passe de 45 000 à 122 000 exemplaires. Donc la réaction est bonne, ce qui est très important pour Ford parce qu'il y a d'autres modèles aérodynamiques qui vont arriver l'année suivante, la Tempo et justement la Continental Mark VII.
Et suivra quelques années après aussi la Taurus, qui aurait été un succès extraordinaire. Bon, évidemment, Ford a fait évoluer cette voiture-là, a lancé de nouvelles versions, a fait évoluer ses mécaniques aussi. Là.
Bien sûr. En 84, les V6 et les V8 reçoivent l'injection. La boîte automatique est disponible sur le turbo coupe. La version de luxe héritage devient élan. Et il y a une version Fila
Ouais, ça, je trouve ça intéressant.
Très intéressante, faite en association avec un couturier italien qui est vendu. Elle a une carrosserie de ton, des roues en aluminium de couleur coordonnée, des bandes décoratives rouges et bleues, ouais, et un intérieur en cuir blanc.
Et tu l'as uniquement en blanc, si ma mémoire est, ouais, bonne. C'est ça, donc la peinture extérieure est blanche.
En fait, c'est des anthracites, plus ou, okay, moins clairs.
OK, mais bref, ça avait un look assez particulier. Ouais. Je ne me souviens pas d'avoir vu une voiture comme celle-là, mais j'en ai dans des catalogues, j'ai lu là-dessus, mais j'ai pas l'impression que ça en est vendu énormément.
J'ai pas trouvé de chiffres séparés pour cette version en particulier, ouais, mais le modèle 84, c'est très très bien vendu, 170 000 exemplaires, ce qui, ouais, est excellent pour une année pleine.
Ben oui, et c'était pas quand même des voitures qui étaient grand public, c'était cher une Thunderbird, ouais, à l'époque, là. Et Ford a fait payer très cher sa technologie, on les vendait plus cher que les Monte Carlo équipements équivalents. Et si tu voulais payer encore plus cher, tu vas aller chez Mercury acheter une Cougar qui était essentiellement la même voiture, mais avec un habillage un petit peu différent.
Et un arrière taillé, ouais, à la serre, ça, assez bizarre.
C'est ça. Moi, je me souviens la blague d'un type qui avait dit « Moi, j'aime pas ça, la Thunderbird, parce qu'on dirait qu'elle a deux pare-brise. J'aime mieux avoir une partie arrière tronquée. » Enfin, bref. Voiture qui a évolué aussi en 87, mais avec un habillage un peu différent. Ils ont refait la carrosserie essentiellement.
Alors oui, les faciès arrière et avant sont revus. Et là, cette fois-ci, les phares effleurants apparaissent.
Ouais.
La vitre arrière est revue et le pare-brise arrière est agrandi.
Ouais.
Et là, c'est le modèle turbo coupé qui est vraiment amélioré. Le 2,3 litres gagne son refroidisseur air. Et là, on retrouve une mécanique assez similaire à celle justement de la Mustang SVO.
Qui n'existe plus à ce moment-là, voilà, déjà. Ouais.
Et la puissance monte à 190 chevaux en manuel uniquement parce que la boîte automatique n'était pas capable d'encaisser ça. Et la puissance, dans le cas de la boîte automatique, était limitée à 150 chevaux.
Ouais, les ça roues, fait une différence, ouais, quand même considérable. Ouais. Il n'y avait pas d'équivalent chez Mercury. Donc, c'est ça, la Cougar XR7 avait son V8, mais il n'y avait pas d'équivalent.
Donc, les roues passent en 16 pouces, 4 freins à disque, anti-blocage de série. Et ce qui fait que c'est très rare, mais la Turbo Coupe 87 prend le titre de voiture de l'année. Ce qui est très rare pour un véhicule juste
restylé,
un nouveau véhicule. Et en fait, la voiture a tellement impressionné les essayeurs qu'elle a récupéré le titre de voiture de l'année. Le reste de la gamme évolue un petit peu. Le V6 reçoit une boîte automatique 4 rapports.
Ouais.
Et l'élan devient la Helix. Et une version sport est ajoutée. Pas beaucoup d'autres changements. Pour 88, nouvelle injection multipoint sur le V8. Échappement double, version sport. Et on reste encore à des niveaux de vente intéressants. 147 000 exemplaires.
Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'évidemment... la Thunderbird en est à sa dernière année modèle en 88 avant de complètement être redessinée et de regagner des titres de voiture de l'année en 89 parce que là, on amenait la T-Bird à un autre niveau avec une voiture plus grosse, encore plus performante, mm-hmm, bon bref, mais il y aura quand même eu, cette voiture-là aura servi quand même de modèle pour plusieurs autres produits, exactement, chez Ford qui ont été faits dans le futur.
C'est la voiture qui a vraiment fait rentrer Ford dans les années 80. Après l'Aerobird, justement, il va y avoir les Tempo, Mark 7.
C'était pas la Mercury Zephyr, non? Ou la Ford Fairmont?
Ah. Pas exactement.
Pas exactement.
OK. Et en fait, elle va aussi servir d'un avant-goût et habituer le public à des nouvelles formes aérodynamiques, ouais, et va préparer le terrain pour la voiture qui va littéralement sauver la marque Ford. C'est justement, comme tu le disais tout à l'heure, la Taurus en 86. Ouais. Et il faut savoir que beaucoup de gens à l'interne doutaient du potentiel de la Taurus. Et en fait, les dirigeants étaient très, très paniqués au lancement. Et les bons chiffres, les bons résultats, la bonne acceptation de la T-Bird sur le marché a quand même beaucoup rassuré les dirigeants de Ford. Et ça, c'était une bonne chose puisque après... On sait, le restant des années 80 et 90 seront quand même plutôt très très bonnes pour Ford.
Ouais. Et surtout avec la Taurus qui a été meilleur vendeur dans son segment pendant plusieurs années aux États-Unis.
Et même meilleure voiture vendue en 92. Donc, toutes catégories confondues.
On pourra revenir sur la T-Bird dans une autre chronique, mais d'ici là, merci Hugues pour ça. Et on se retrouve dans quelques instants.